Les deux orphelines, quatrième partie, chapitre 21. Nous avons dit que le mariage de la fille du gouverneur devait être le signal d'union entre les filles exilées de France, les célibataires, les indigènes et les autres habitants de la Nouvelle-Orléans. Aussi, dans le pénitencier, avait-on tout préparé pour cette cérémonie et attendait-on avec impatience le moment où elle devait avoir lieu. Une vingtaine de couples étaient prêts à recevoir la bénédiction nuptiale dès que l'aumônier aurait uni Yvonne à M. de Saulny. Naturellement, il y avait eu des privilégiés parmi tous ces hommes qui attendaient depuis longtemps l'arrivée d'un convoi de femmes. Pour répondre à la vive impatience des autres aspirants au mariage, on allait tirer les fiancés au sort. Cette scène ne devait pas manquer de pittoresque. Elle eut lieu sous la présidence du commandant du pénitencier, lequel s'était fait assister par deux officiers de la garnison. On eût dit une scène d'encan, semblable à celle qui se pratiquait ordinairement sur les quais à l'arrivée d'un navire ayant à bord des marchandises avariées. Le commandant avait pris place à une table dont il occupait le milieu en qualité de président. À sa droite était un officier assesseur tenant, en manière d'urne, une grosse calebasse dans laquelle on avait introduit des billets portant les noms des filles à marier et d'autres billets sur lesquels étaient tracés des zéros. Et cela en nombre suffisant pour que chacun des aspirants à la main des filles disponibles pût trouver son billet personnel dans la calebasse. À gauche, un second officier tenait un registre où devait être inscrit le résultat de ce singulier tirage au sort. Rien n'était plus curieux à observer que la physionomie de ces intéressés des deux sexes. Du côté des hommes, on savait parfaitement que les deux tiers des prétendants seraient blackboulés par le sort. Aussi regardait-on les uns les autres avec un sentiment de jalousie et même de colère. C'est que plusieurs d'entre ces individus avaient figuré déjà parmi les déshérités qui n'avaient pas trouvé femme dans les précédents convois d'exilés. Quelques-uns roulaient des yeux pleins de colère à l'adresse de leurs concurrents. D'autres parlaient de corriger le sort en achetant aux favorisés les fiancés que le hasard leur donnerait. Il n'y avait eu des précédents dans ce genre d'opération. Et le gouverneur, pas plus que le commandant, ne s'était opposé à ces petits trafics, fermant les yeux sur ce que de pareils marchés avaient d'irrégulier. Du côté des femmes, les impressions ne pouvaient être de même nature, puisque chacune de ces détenues était bien certaine d'avoir un mari. Le tout était de savoir quel époux sortirait pour elle de la calebasse. Toutes, sans la moindre timidité, regardaient le lot des prétendants, cherchant dans ce groupe d'hommes de nuances différentes le type rêvé, la figure sympathique, et elles se communiquaient cyniquement leurs impressions. Comme il se trouvait que quelquefois le même individu avait fixé l'attention de deux détenues, c'était entre celles-ci un commencement d'antagonisme avant la lettre qui avait son côté original. Parmi les spectateurs, les soldats et les marins se livraient à des lazzis et à des plaisanteries des moins raffinées. Les officiers, principalement ceux qui s'occupaient de ce tirage au sort, faisaient de vains efforts pour garder leur sérieux. Ajoutons que quelques regards s'égaraient à la dérobée sur le groupe des femmes dont la majeure partie était fort agréable à voir. En effet, les compagnes de Marianne étaient toutes des créatures de figure attrayante, et quelques-unes réalisaient même de véritables types de beauté. Certes, Marianne pouvait compter parmi les plus jolies de toutes les malheureuses qui avaient composé le convoi des exilés. Aussi s'étonnait-on, dans le groupe des prétendants, de ne pas la voir au milieu de ses compagnes. On savait que le gouverneur l'avait favorisée d'un emploi à l'habitation, mais on ne supposait qu'elle dût être une non-valeur pour la colonie, alors que le manque de femmes se faisait sentir. Au nombre des assistants se trouvait en première ligne le sergent Rabasson. Et comme le vieux brave avait fait part de ses espérances à la suite de la démarche faite par lui auprès du gouverneur, on commentait sa présence en même temps qu'on s'étonnait de ne pas voir arriver la jeune couturière dont il espérait obtenir la main. Déjà même quelques plaisanteries avaient résonné désagréablement aux oreilles du sergent, et il est probable qu'il eût cherché querelle au rieur si le commandant n'eût fait signe que le tirage au sort allait commencer. Aussitôt, il se fit un profond silence sur la place. Le commandant ayant dit quelques mots à l'officier chargé du registre, le militaire appela le premier inscrit. L'individu, désigné par le numéro 1, s'avança jusqu'auprès de la table, salua très respectueusement le président et les deux assesseurs. Puis, très ému, il avança la main et plongea les doigts dans la calebasse qui servait d'urne. Tous les regards étaient fixés sur lui, et ce fut en rougissant un peu qu'il passa le papier à l'officier chargé du dépouillement. Celui-ci déplia le rouleau et le montra au public. « Zéro !» cria-t-on de toutes parts, tandis que le black boulet se retirait la tête basse. Un second appelé ne fut pas plus heureux. Ce ne fut que le sixième qui obtint la main d'une prisonnière. Celle que le hasard lui donnait était précisément cette grosse rougeaude qu'on avait vue si gouailleuse et cynique pendant le voyage de Paris au Havre de Grâce. Très plantureuse, elle avait été convoitée par la plupart des intéressés. La captive sortit des rangs et alla se placer à côté de son fiancé, qui se trouvait être un vigoureux mulâtre d'une trentaine d'années, à l'air intelligent, et dont les regards brillaient en couvant la belle prisonnière. La présentation se fit avec un éclat de rire de part et d'autre, et les deux fiancés s'en furent, bras dessous, prendre rang derrière le commandant, salués au passage par des acclamations. Et le tirage au sort continua jusqu'à ce que les 20 femmes eussent trouvé des maris plus ou moins à leur goût. L'opération terminée, le commandant se tourna vers les 20 couples qui s'étaient rangés derrière le fauteuil présidentiel et adressa une allocution à tous ses fiancés qui, quelques instants auparavant, ne se doutaient guère qu'ils seraient bientôt liés l'un à l'autre pour la vie. À partir de ce moment, il n'y avait plus qu'à attendre que le prêtre vînt donner la bénédiction nuptiale à toute la fournée de couples, fort impatients de voir consacrer leur union. Mais, ainsi qu'on le sait, les mariages des détenus ne devaient s'accomplir qu'après celui de la fille du gouverneur. En attendant la bénédiction nuptiale, chaque fiancé était autorisé à faire sa cour à la femme que le hasard donnait en partage. C'était alors chose comique de voir se dérouler, avec ses phases diverses, cette préface du mariage. Les minauderies de ces filles, répondant à des galanteries de colons embrigadés parmi les vagabonds, travailleurs au jour le jour, offraient un côté pittoresque à l'observation. Sans compter que, ainsi que nous l'avons dit plus haut, il entrait dans les mœurs de la colonie pénitentiaire que celui qui avait obtenu de se conjoindre à une détenue avait droit de la céder à prix d'argent à un de ses compagnons que le sort n'avait pas favorisé. La scène était alors des plus comiques. Les favorisés étaient littéralement circonvenus par les autres et ils s'établissaient, en présence de la femme qui était l'objet de la négociation, des rapports commerciaux entre vendeurs et acheteurs, dans des termes fort réjouissants pour les spectateurs. Ajoutons que, comme cela se pratique pour les négociations commerciales, des courtiers s'entremettaient entre les parties pour faire aboutir l'opération et recevaient, pour leur peine et soin, une commission proportionnée au prix débattu et accepté. Les officiers du pénitencier n'ignoraient pas ce qui avait lieu, mais ils fermaient les yeux sur ces trafics qui, du reste, ne gênaient personne, ni acquéreurs ni cédants, et faisaient même quelquefois l'affaire de tous, y compris la fiancée, qui se sentait souvent plus portée vers le mari qu'il achetait que vers celui que le hasard lui avait accordé. Quelquefois aussi, la fiancée devenait l'enjeu d'une partie de cartes entre plusieurs concurrents. Dans ce cas, la femme était estimée à un prix convenu, et deux individus s'associaient pour réunir la somme exigée par le cédant. Et l'on jouait au reversi à qui épouserait. La plupart du temps, l'issue de la partie amenait des querelles entre les joueurs, le perdant demandant généralement une revanche que son adversaire lui refusait sans scrupule. De là, des haines qui, un jour ou l'autre, avaient leur dénouement dans un pugilat ou un guet-apens. Pour en revenir à ces étranges fiançailles, disons que les deux futurs étaient laissés libres de passer la journée ensemble. Mais à la tombée de la nuit, chacun devait regagner son quartier. Pendant les quelques jours qui précédaient le mariage, la fiancée s'occupait, aux heures de récréation, de se confectionner la toilette de noces. Celle-ci se composait, la plupart du temps, d'une robe de toile légère, quelquefois de fine batiste, car les créoles de la Nouvelle-Orléans, sachant que les mariages des détenus allaient avoir lieu, envoyaient aux pénitenciers leurs toilettes de rebut et des rubans pour être distribués aux fiancés. Alors, c'était à qui obtiendrait la meilleure part dans la distribution. Ce qu'il y avait de particulièrement comique dans ces affublements d'épousées, c'est que chacune d'elles voulait avoir des fleurs d'oranger pour la couronne et le bouquet. Quand il s'agissait de Françaises exilées, celles-ci savaient admirablement tirer parti des toilettes qu'on leur offrait. Mais lorsque les épousées, faute de mieux, étaient choisies parmi les esclaves importées de la côte d'Afrique, les accoutrements devenaient absolument grotesques. Rien n'était plus carnavalesque que les grosses faces des négresses couronnées de fleurs d'oranger ornant leurs chevelures crépues. Cette fois, Il y avait eu une ample distribution de hardes et de fleurs, et les 20 exilés trouvèrent là de quoi se confectionner des toilettes de fort bon goût. Aussi, nombre de dames de la colonie française avaient-elles demandé au gouverneur et à la marquise de bien vouloir les faire assister à cette fête du mariage. Il fut donc convenu que tous les invités à la noce d'Yvonne verraient la bénédiction nuptiale des détenus et assisteraient du haut de la terrasse aux fêtes qui devaient se prolonger pendant une partie de la nuit. Or, tandis que ces préparatifs avaient lieu, le sergent Rabasson, inconsolable du refus de Marianne de lui accorder sa main, avait voulu faire une dernière tentative auprès de la jeune femme pour essayer de se faire agréer. Il ne cessait de rôder autour de l'habitation, espérant rencontrer la couturière d'Yvonne. Mais Marianne était occupée à se mettre la dernière main à la toilette de la fiancée de Gaston de Saulny. Force fut à l'infortuné sergent de battre en retraite à l'heure où il devait reprendre son service au pénitencier. Et cela après avoir fait longtemps le pied de grue. De guerre lasse, il avait de nouveau intéressé le commandant à son sort. Et celui-ci l'avait consolé en lui annonçant qu'on attendait dans quelques jours un navire arrivant de France et qui transportait à la Louisiane un nombreux convoi d'exilés. Le sergent Rabasson poussa un gros soupir qui témoignait de la tendre affection que, sans le savoir, Madeleine lui avait inspirée. Enfin, le jour du mariage arriva. Tout le monde, à l'habitation, se réjouissait de prendre sa part de cette solennité. Les invités arrivèrent de toutes les parties de la Louisiane, car la famille de Saulny avait de très grandes relations dans le pays. Les dames de la Nouvelle-Orléans voulaient se faire remarquer par leurs élégantes toilettes, comme si une rivalité s'était établie tacitement entre elles et les dames de l'État du Mississippi. Marianne s'était surpassée dans la confection de la toilette d'Yvonne, et comme tout le monde lui faisait compliment de son goût exquis, le marquis lui posa en riant cette question. « Mais chez quelle grande couturière de Paris avez-vous donc fait votre apprentissage, mademoiselle Gérard ?» En entendant prononcer ce nom, la jeune femme sentit que le rouge lui montait au visage. En effet, le lieutenant Douvel était présent à la conversation. Ses yeux rencontrèrent ceux de Marianne. Tout cela n'avait duré que quelques secondes. La jeune couturière dut faire un violent effort sur elle-même pour ne pas laisser deviner le trouble qui l'agitait. Le nom de madame Poitevin arriva sur ses lèvres. Elle le prononça avec un léger tremblement dans la voix, et ses yeux s'attachèrent sur le visage du lieutenant comme pour demander le secret de la confidence qu'elle lui avait faite. Il lui semblait que l'honnête homme dont elle n'avait voulu être que l'ami se refuserait à devenir son complice, et comme, sous l'influence de l'impression ressentie en ce moment, Charles Douvel fronçait les sourcils et laissait son front se creuser de rides, Marianne crut que le lieutenant allait la démasquer et publier le mensonge dont elle s'était rendue coupable et dans lequel elle persévérait. Ses yeux eurent un éblouissement, comme si elle eût été sur le point de perdre connaissance. Mais Charles Douvel avait gardé le silence, et Marianne éprouva un soulagement. « Madame Poitevin ? » répéta la marquise de l'air d'une personne qui consulte ses souvenirs. « Oui, madame la marquise, » articula faiblement la couturière. « Ah, je me rappelle parfaitement. Cette madame Poitevin était la couturière de ma tante, et j'ai porté des costumes confectionnés par elle. « Mais il y a bien des années de cela, » soupira-t-elle, « et vous ne songiez certainement pas alors à devenir ouvrière chez cette excellente maîtresse. » Tout heureuse de ce souvenir qui lui arrivait juste au moment où elle voulait donner à l'ouvrière une nouvelle preuve de la sympathie que celle-ci avait su lui inspirer, la mère d'Yvonne continua. C'était, je m'en souviens, une excellente femme que cette madame Poitevin. Chez elle, on ne pouvait avoir sous les yeux que de bons exemples. Et avec une nuance d'hésitation dans la voix. Vous l'aviez sans doute quittée depuis quelque temps déjà, cette si bonne maîtresse, lorsque... Marianne avait tenu les yeux baissés. Interrogée comme elle l'était, que pouvait-elle répondre? Dirait-elle la vérité? Alors, s'était laissé tomber sur l'innocente Henriette tout le poids d'une faute odieuse. Cruelle alternative. Marianne trouva une issue toutefois. Si je n'avais jamais suivi que les exemples que j'avais sous les yeux à l'atelier, certes, madame la marquise, je serais probablement encore chez madame Poitevin. Et comme ces derniers mots avaient paru à Yvonne s'être noyée dans les larmes contenues à grand-peine, « Oh, mère !» fit la jeune fille, « n'éveillons pas chez Henriette des souvenirs qui l'attristent assurément. » Puis saisissant l'ouvrage que tenait l'ouvrière en ce moment, « Oh, le délicieux rucher » ajouta-t-elle en riant. « C'est le tour du cou, n'est-ce pas? Je n'ai jamais rien vu de plus vaporeux. » l'incident avait pris fin. Comme le lieutenant Douvel se retirait, Marianne le remercia d'un regard. Elle lui parut que les yeux de son ami étaient plus que d'habitude empreints de tristesse. À l'habitation, on mettait la dernière main aux préparatifs. Les illuminations devaient permettre à l'œil de fouiller le parc jusque dans ses plus mystérieuses profondeurs. Toute la journée, les nègres, conduits par les commandeurs, avaient parcouru cet immense parc, dessiné et taillé dans un coin de forêt vierge, asile de merveilleux oiseaux et de terribles reptiles. Pendant les quelques jours que le fiancé d'Yvonne avait passé à l'habitation, à plusieurs reprises, il avait voulu donner à la marquise et à sa fille le spectacle d'une chasse en pleine forêt vierge, semblable à celle qu'il faisait dans ses propriétés sises à l'extrémité de la Louisiane, sur les frontières du Texas. Yvonne avait accepté avec l'enthousiasme d'une curieuse, d'autant que Gaston de Saulny devait, pensait-elle, lui apparaître sous un jour nouveau qui ne pourrait que lui être encore plus avantageux. Mais la marquise ne se souciait guère d'affronter les réels dangers que présentent les chasses en forêt. Et les racontars et anecdotes à ce sujet avaient alimenté la conversation du soir, lorsqu'après le dîner, le gouverneur et sa famille avaient fait traîner les chaises berceuses jusqu'à la première clairière du parc, une délicieuse échappée qu'on eût dit avoir été inspirée par le nôtre à l'artiste louisianais qui avait porté la cognée parmi ses arbres séculaires. Le gouverneur était d'humeur gouailleuse ce soir-là, et il s'attachait à épouvanter la marquise par un récit ressemblant fort à une histoire inventée à plaisir. La marquise poussait des petits cris de frayeur et se rapprochait d'Yvonne, toute pelotonnée également, comme si toutes deux eussent été poursuivies par le serpent à sonnette dont il était question dans le récit du gouverneur. On sait que Marianne était autorisée à suivre ses maîtres pendant les promenades dans le parc. Elle écoutait, fort effrayée aussi de ces histoires, ayant eu dès son enfance une répulsion instinctive pour les reptiles, même ces inoffensifs petits lézards que dans les campagnes, les loustiques glissent dans le dos des jeunes filles. Marianne se souvenait d'avoir été en proie à une violente attaque de nerfs le jour où sa camarade, la nièce de l'aubergiste, lui avait placé un de ces petits reptiles morts dans son panier à goûter. En entendant parler d'un serpent à sonnette qui avait abandonné la poursuite d'un chasseur pour aller téter une jument couchée dans la prairie voisine, Marianne se trouva vivement intéressée. La chose ayant paru par trop fantaisiste, la marquise et Yvonne, malgré leur frayeur, avaient cru devoir protester de leur incrédulité par des éclats de rire à l'adresse du narrateur. Mais le gouverneur prit à témoin son futur gendre en disant « Voyons, mon cher Saulny, vous qui avez parcouru les forêts vierges, dites à ces dames que je ne leur en impose pas. » « Bien au contraire, monsieur le marquis, vous restez au-dessous de la vérité. Tenez, moi, par exemple, j'ai été aux prises avec un singulier couple. » « De serpents ?» demanda Yvonne. « De ces serpents noirs, qu'on croirait absolument inoffensifs, aller voir se balançant aux branches des corosoliers, dont ils creusent les fruits verts, pour s'en faire de petites chambres à coucher, suspendues et balancées par la brise. » « Mais c'est très poétique ce que vous nous dites là, » fit en riant la marquise. « C'est surtout absolument vrai. Continuez donc, Gaston, » prononça le gouverneur qui flairait une anecdote intéressante. Marianne écoutait de toutes ses oreilles, les yeux fixés sur le jeune homme qui parlait avec animation, comme s'il se fût trouvé encore en présence des reptiles qu'il avait combattus. Gaston de Saulny continua. « J'étais en chasse, poursuivant de branche en branche une volée de perroquets gris. « Oui, interrompit le marquis, les perroquets gris du Mexique, les plus faciles à apprivoiser et qui arrivent à parler presque aussi clairement que des personnes. Au point que l'on raconte que certains perroquets de cette espèce, ayant réussi à s'échapper de sa cage, auraient enseigné à parler à tous ses congénères vivant dans les forêts. Je connais la suite. Des nègres stupéfaits les prirent pour des dieux et se prosternèrent sous l'arbre où se trouvaient les perroquets gris. « Une légende !» fit la marquise. « Mais revenons-en au serpent noir !» insista Yvonne. « Ah oui, mes deux cobras capello. C'est ainsi qu'on les nomme dans le pays. Figurez-vous donc que les deux reptiles s'étaient enroulés à une branchette par le bout de la queue et se balançaient en se regardant amoureusement. Je ne les avais pas encore aperçus et je me trouvais précisément sous un gros magnolia sauvage au sommet duquel caquetaient mes perroquets. « Oh !» fit Gaston de Saulny. « Dans nos forêts, il faut toujours s'attendre à des surprises plus ou moins agréables. Aussi, je ne me hasardais pas souvent en chasse sans mon compagnon ordinaire. Un ami? Fit mademoiselle Yvonne. Un nègre, mademoiselle, ce qui ne l'empêchait d'être plus dévoué que le meilleur des amis. En prononçant cet éloge de son compagnon ordinaire de chasse, le jeune homme n'avait pu se défendre d'un air de tristesse, comme si de pénibles souvenirs lui arrivaient en ce moment. « Mais continuez donc !» insista la marquise. « Je suis disposée à avoir effroyablement peur en vous écoutant, car je suppose que vous allez nous conter quelque chose d'extrêmement dramatique. » « Donc, fit le gouverneur, s'adressant à son futur gendre, vous étiez ce jour-là en compagnie de votre nègre favori. « Vous avez bien dit, fit Gaston. C'était un cadeau de mon père. Il m'avait, le jour de ma naissance, donné le négrillon, qui lui aussi venait au monde ce jour-là. On le nomma Scipion. » Il semblait que le jeune Solny prit plaisir à parler de son compagnon noir. Il reprit en effet après quelques secondes de silence. « Scipion ne m'a jamais quitté. Lorsque je partis pour la France pour y faire mes études, mon nègre m'accompagna. « En pension ? » fit en souriant la marquise. « Non, pas précisément. Mais comme j'étais externe, je voyais Scipion matin et soir chez mon correspondant. Un oncle maternel où je l'avais fait admettre en qualité de petit valet de pied. « Oh oh !» prononça mademoiselle Yvonne. « C'était là de l'amitié tout à fait fraternelle. »« De la part de Scipion ?» répliqua Gaston de Saulny. C'était un dévouement sans bornes, ainsi que vous allez en juger bientôt. » Il avait poussé un soupir et continua en ces termes, revenant à son récit de chasse. Scipion avait aperçu le couple serpent avant moi. Les nègres ont un instinct particulier pour reconnaître la présence de reptiles, même lorsque ceux-ci sont cachés à quelque distance. Bref, mon compagnon me dit tout bas. « Maître, des cobras, ils sont deux. C'est le mari et la femme. Faut prendre garde, maître. « Cobra n'aime pas être dérangé quand il promène avec femelle. » Tout à coup, en levant la tête, mes yeux rencontrent les petits yeux vifs d'un des reptiles dont je vis la langue fourchue paraître et disparaître avec rapidité, comme si le serpent se fût pourléché après un excellent repas. Je le couchai en joue. Mais aussitôt, un sifflement se fit entendre et le second serpent, que je n'avais pas encore aperçu, s'élançait sur moi. « Oh mon Dieu !» s'écrièrent en même temps la marquise, Yvonne et Marianne. Je m'étais baissée vivement. Le reptile passa par-dessus mon dos et alla se placer à quelques mètres, immobile et comme étonné d'avoir manqué son élan. Mais je ne pris pas le temps de l'observer. Connaissant sa façon de procéder, je l'attaquai d'un coup de la baguette de mon fusil qui lui brisa la colonne vertébrale. Puis, de plusieurs autres coups, je le séparai en deux. Les deux tronçons frétillaient convulsivement. C'était le mâle. Je l'avais reconnu aux anneaux qui enroulaient d'un liseré noir vif la naissance du corps. « Bon, fit le marquis, je vous vois maintenant aux prises avec la veuve. Et je pus me rendre compte de l'influence du chagrin sur la gent reptile. La femme de mon cobra capello siffla rageusement à son tour et en trois bonds rejoint le corps inanimé de ma victime comme pour s'assurer du trépas de son compagnon. Puis il sembla qu'elle voulut le venger sur le champ. En effet, le reptile se dressa sur sa queue et se tourna vers moi. J'étais perdu. « C'était le cas d'avoir sous la main quelques jattes de lait !» s'exclama le gouverneur. « Du lait ?» fit Yvonne. « Oui, les serpents ne résistent jamais à la vue du lait dont ils sont absolument friands. Ils abandonnent l'ennemi pour satisfaire leur gourmandise. » « Or, continua Gaston de Saulny, comme je n'avais pas de lait à ma disposition, pas même celui d'une jument se vautrant dans l'herbe, ajouta-t-il plaisamment, force fut d'avoir recours à un autre moyen pour me débarrasser de mon terrible adversaire. Tout le monde écoutait avec la plus grande attention. Le gouverneur, après avoir commencé par persifler son futur gendre, était vivement intéressé. Gaston de Saulny continua. Le péril était imminent. « Parbleu, vous risquez la mort !»« J'ai entendu dire, interrompit la marquise, que la morsure du serpent noir de la Louisiane est mortelle. « Absolument, madame la marquise. La mort est instantanée, foudroyante, » fit Gaston. En ce moment, Yvonne se tournait vers Marianne, qui paraissait avoir éprouvé une grande terreur de ce qu'elle venait d'entendre raconter. Le narrateur reprit en dramatisant autant que possible son récit. La femelle me poursuivait. Elle allait s'élancer, et dans sa colère, il y avait lieu de croire qu'elle ne m'épargnerait pas. Que faire? Fuir était impossible, malgré toute la vitesse que j'aurais déployée. Je ne pouvais échapper, car le cobra Capello, en quelques bonds, devait me rejoindre. J'étais d'ailleurs cloué sur place. La baguette de mon fusil à la main, je me résignai à attendre le moment propice pour attaquer le reptile. Pour cela, il m'était interdit de marcher à l'ennemi. Il me fallait, pour ainsi dire, l'atteindre au vol, au moment où il s'élancerait. À ce moment de la narration, il y eut un frémissement parmi les personnes présentes. Yvonne s'était levée et s'approchait de son fiancé. M. de Saulny parlait maintenant d'une voix assourdie et son visage avait pris une expression de tristesse. « L'instant était suprême, » reprit-il. « Je pensais à me faire de mon chapeau de paille un bouclier pour garantir mon visage. » Et résolument, je fis tête à mon adversaire. À ce moment, je poussai un cri terrible. Scipion s'était précipité au-devant du cobra. Il me faisait un rempart de son corps. Le serpent siffla. D'un bond, il vint s'enrouler autour du bras de mon compagnon, et sa tête aplatie frôla la chair. Scipion tourna vers moi des regards affolés, et instantanément, je le vis s'affaisser, se tordre dans d'épouvantables convulsions, puis son corps demeura rigide. Il était mort, foudroyé par le venin du cobra Capello. Alors, j'eus le temps de m'élancer, la baguette à la main, je frappai le serpent que je parvins à tuer sur le corps même de sa victime. Mon pauvre Scipion m'avait sauvé la vie et était mort victime de son affection et de son dévouement pour moi. L'heure de l'hyménée avait, ainsi que nous l'avons dit, sonné pour les deux jeunes gens qui attendaient la consécration religieuse de leur amour. L'église de la Nouvelle-Orléans était illuminée pour la circonstance et le chœur où devait avoir lieu la cérémonie était entièrement tapissé de fleurs, formant des dessins tout autour des tableaux religieux et des statues de saints. En outre, depuis l'entrée de l'église jusqu'à la chapelle, les deux fiancés devaient marcher littéralement sur un véritable tapis de roses blanches effeuillées en jonchées. La grande masse des invités s'était rendue à l'église pour y attendre l'heure de la bénédiction nuptiale. Seules les dames de l'intimité de la marquise étaient allées à l'habitation pour former le cortège. Le gouverneur avait su s'attirer la sympathie de la population tout entière, aussi fut-ce au milieu d'une double haie d'assistants qui acclamaient les nouveaux époux que les carrosses arrivèrent jusqu'au parvis de l'église. L'abbé attendait à l'autel, heureux d'être appelé à bénir l'union de celle qu'il avait vue arriver, enfant, dans la colonie. À l'entrée des époux, les chants commencèrent, et la foule envahit respectueusement et silencieusement le sanctuaire. La cérémonie achevée, les invités firent escorte aux mariés, suivis par la population, qui poussait des vivats en l'honneur des jeunes époux et du gouverneur. À l'habitation, les orchestres, dissimulés dans le parc, entamèrent une marche nuptiale. Des fauteuils pour les mariés étaient placés sous un dais, au dôme de satin constellé d'étoiles d'or, d'où tombaient de chaque côté et au fond des flots de mousseline lamée relevés par des bouquets de roses blanches sur un fond de jasmin formant berceau. Tout autour de ce déodorant, les jardiniers avaient dessiné un admirable jardin où se trouvait toute la flore de la Floride transportée comme par enchantement. C'est dans ce ravissant tableau animé que les nouveaux époux devaient recevoir les félicitations, les compliments et les hommages des habitants de la colonie accourus pour les saluer. Le défilé commença au son des musiques du parc, auxquelles répondirent plus tard des accords étranges dont on eut bientôt l'explication. Et comme tout le monde s'étonnait, le gouverneur prit la parole. « J'ai voulu, dit-il, que ce jour si heureux pour ma famille fût également marqué par le bonheur de quelque infortuné, et je dois vous dire qu'en ce moment même, le vénérable prêtre qui a béni l'union de ma chère Yvonne donne la bénédiction nuptiale dans la chapelle du pénitencier à 20 couples dont les épouses sont les condamnées arrivées de France il y a quelques mois. » Une exclamation accueillit ces paroles et des applaudissements couvrirent la voix du marquis. Celui-ci réclama de nouveau le silence. « Vous pourrez assister cette nuit du haut de la terrasse à la fête qui suivra les mariages dont je viens de parler. J'ai voulu que tout le monde ici puisse se réjouir de notre bonheur. Pendant quelques heures, ces malheureuses pourront oublier qu'elles sont condamnées et qu'exilées de France, elles ne reverront plus la patrie. » De nouveaux applaudissements éclatèrent et Gaston de Saulny, tenant Yvonne par la main, se leva pour féliciter le gouverneur de la pensée qu'il avait eue et pour le remercier d'avoir, en choisissant pour cette fête des condamnés le jour de son mariage, permis qu'il collaborât à cette généreuse inspiration. À ce moment, comme les orchestres, sur un mot d'ordre, avaient cessé de jouer, on put entendre plus distinctement le bizarre charivari qui se faisait dans un endroit réservé du parc, tout au bout de l'habitation, à l'un des angles de la terrasse. C'était un mélange confus de sons d'instruments jouant à l'unisson sur un rythme étrange, tantôt lent et sourd, comme si l'on eût exécuté des roulements sur des tambours, tantôt saccadés et marqués d'éclats vibrants comme des entrées de trompettes et de cors dans une orchestration. Les invités manifestaient une grande curiosité. Tout le monde s'attendait à une nouvelle surprise ménagée par le gouverneur. Et déjà les dames s'empressaient auprès de la marquise pour avoir le mot de cet étrange concert. Ce fut le marquis qui répondit. « Mesdames, dit-il, je suis heureux d'avoir pu exciter votre curiosité, et je désire que l'idée, un peu bizarre, qui m'est venue de donner le spectacle d'un mariage entre naturels des côtes de Guinée, et le succès que j'en attends. En effet, continua-t-il, c'est chose rare en notre Louisiane qu'un semblable spectacle. Et je vous prie, mes chers invités, de me suivre sur la terrasse, d'où l'on peut assister, ainsi que je vous l'ai annoncé, au mariage de deux jeunes gens féticheurs, devenus esclaves à la suite d'un de ces nombreux combats que se livrent les tribus nègres de la côte d'Afrique et vendus pour la traite. Des groupes se formèrent aussitôt pour accompagner le marquis, la marquise et monsieur et madame Gaston de Saulny sur la terrasse brillamment illuminée à giorno et d'où l'on découvrait une clairière du parc au milieu de laquelle allait se passer la cérémonie nuptiale entre deux enfants du Congo. Le hasard voulut que Charles Douvel, qui, cherchant l'isolement au milieu de cette fête et ayant trouvé une place tout au bout de la terrasse, à l'endroit où les domestiques de l'habitation s'étaient réunis, s'y rencontra avec Marianne. Depuis l'explication qui avait eu lieu entre eux et que nous avons rapportée, les deux jeunes gens avaient évité de se rencontrer aussi fréquemment que cela arrivait autrefois. L'un et l'autre éprouvaient à présent une gêne visible lorsqu'ils se trouvaient subitement en présence. Ce n'était pas en effet sans une profonde tristesse que le lieutenant avait pris la résolution de couper court aux espérances qu'il avait entretenues dans son cœur. Il avait obéi à un sentiment de dignité qui lui commandait de faire violence à son amour. Mais la douleur provoquée par cette rupture avait été violente. Marianne, tout en se félicitant d'avoir rempli son devoir, n'y était toutefois parvenue qu'en faisant une profonde blessure à son cœur. En se retrouvant à l'improviste en face l'un de l'autre, leur premier mouvement avait été d'éviter une conversation qui allait nécessairement s'imposer. Mais comme Marianne faisait mine de s'éloigner, « Pourquoi vous retirez-vous, Marianne ?» lui dit doucement Douvel. « Ne voulez-vous pas assister à cette fête si originale ?» Puis, commentant mentalement le silence de la jeune femme, « Est-ce ma présence qui vous importune ? Vous avez donc oublié que nous avons fait pacte d'amitié ?» Pour toute réponse, Marianne accepta la place que le lieutenant lui faisait auprès de lui, dans le rang pressé des serviteurs du marquis. Au surplus, le spectacle qui commençait s'annonçait vraiment original, ainsi que l'avait dit Charles Douvel. Dans une vaste clairière, ménagée à l'endroit où le parc confinait à la forêt vierge, une cinquantaine de nègres, tenant à la main des branches fraîchement coupées aux arbres, se livraient à la danse de leur pays, au son d'instruments fabriqués par eux, tambours, cymbales, trompes faites au moyen de noix de coco, et un instrument bizarre, obtenu en perforant de gros coquillages et dont on tirait des sons tantôt plaintifs, tantôt stridents. Charles Douvel connaissait le projet caressé par le marquis de faire une surprise à ses invités. Il raconta en quelques mots à sa voisine que ces hommes étaient des esclaves amenés de la côte d'Afrique par des négriers qui les avaient achetés aux chefs vainqueurs. Ce sont des prisonniers de guerre, considérés, eux, leurs femmes et leurs enfants, comme une vulgaire marchandise, qu'on s'empresse d'échanger contre des colliers de perles et autres verroteries de peu de valeur, et aussi de l'eau-de-vie de mauvaise qualité. Marianne écoutait avec intérêt, le lieutenant continua. Des deux jeunes gens qui vont se marier tout à l'heure, selon la coutume de leur pays natal, la fiancée a 14 ans. Sa mère la nourrissait lorsqu'elle a été conduite en esclavage ici. Pauvre créature, soupira Marianne. La malheureuse mère, paraît-il, était une fille de haute naissance dans son pays, ainsi que l'indiquaient les signes et dessins qui couturent son visage et sa poitrine. Aussi, lorsque sa fille, la fiancée que nous allons voir, fut en âge de supporter les tatouages prescrits par l'usage, elle lui fit des incisions sur la figure, aux joues et sur le front, pour indiquer que l'enfant, quoique esclave aujourd'hui, était né libre. « Vous la verrez tout à l'heure, » continua M. Douvel, « parée et peinte comme le sont les épousées de la côte de Guinée. Ces mots étaient à peine prononcés que l'attention de Marianne fut sollicitée par un certain remue-ménage qui avait lieu dans la clairière. Tandis que les hommes se trémoussaient sur place en agitant leurs branches d'arbres, au son d'une musique endiablée, deux des plus âgés parmi les nègres traçaient au moyen d'un fer de lance des ronds qui devenaient de plus en plus petits à mesure qu'ils se rapprochaient d'un centre convenu qui semblait avoir été ménagé dans un but déterminé. Lorsque les ronds eurent été tracés, on vit apparaître des négresses portant qui des noix de coco, qui des régimes de bananes, des pommes de maïs, voire même des poules, des coqs et des agoutis privés comme des lapins. D'autres tenaient sur la tête de grandes calebasses contenant un breuvage connu sous le nom de vin de palme, servant de boisson aux nègres qui seuls savent le fabriquer. Alors toutes ces négresses déposèrent les offrandes aux futurs époux dans un endroit désigné pour cela par celui qui semblait diriger ces étranges cérémonies. C'était un vieux nègre dont, chose rare, les cheveux crépus avaient blanchi. Il paraissait être, de la part de tous ses congénères, l'objet d'un respect, et le lieutenant l'indiqua à Marianne comme ayant dû être un chef de tribu. Les femmes avaient de nouveau quitté la place. Tout à coup, les danses et la musique cessèrent, et de toutes ces bouches de nègres sortit ce cri. « Wah ! Wah ! » Aussitôt, on vit revenir les femmes. Cette fois, elles tenaient à brasser des monceaux de fleurs. Au milieu du groupe marchait une jeune fille. « Voici la fiancée, » fit Douvel. Et Marianne put voir une jeune négresse dont le cou, les bras et le haut de la poitrine étaient nus, tandis qu'une jupe bariolée, surmontée d'un très court corsage, couvrait le reste du corps jusqu'à mi-jambe. La fiancée fut, par les négresses, conduite au milieu du cercle, où elle demeura debout, présentant aux spectateurs un visage bizarrement tatoué. Elle avait l'œil gauche entouré d'un cercle blanc et l'œil droit d'un cercle rouge, ce qui faisait un effet des plus étranges, ses tons vifs tranchant sur la peau noire d'ébène. Les hommes continuaient à crier « Wah-ah ! Wah-ah ! » Sur un signe du nègre, ils s'arrêtèrent de hurler cette exclamation qui témoigne dans leur langage du plus haut degré de satisfaction que puisse manifester un naturel du Congo. La musique recommença. Pendant ce temps, deux négresses s'emparaient de la fiancée, la couchaient sur le sol et toutes les autres l'ensevelissaient littéralement sous un monceau de fleurs. Puis ce fut le tour des hommes de prendre leur part à la cérémonie. Ils jetèrent sur les fleurs les branches feuillues qu'ils avaient conservées, et cela de façon à former une sorte de tumulus sous lequel la fiancée devait attendre qu'on vînt la délivrer. Celui qui allait se charger de ce soin ne tarda pas à paraître. « Tenez !» fit le lieutenant Douvel en s'adressant à Marianne. « Voici le futur mari. » Celui qu'on désignait ainsi était un grand garçon qui ne paraissait guère âgé de plus de 18 ans, et dont le costume quadrillé bleu et blanc était une sorte de culotte surmontée d'un gilet attenant, laissant passer les bras nus et le cou marqué de cicatrices longitudinales, indiquant un descendant de guerriers célèbres de sa tribu. À peine le fiancé eut-il paru que le vieux nègre le conduisit sur la limite des ronds tracés sur le sol. Il s'agit pour lui d'aller délivrer et conquérir son épouse. Mais il ne doit le faire qu'en se conformant à un singulier usage qui veut qu'il ne puisse parcourir la distance qui le sépare du tumulus de feuillage et de fleurs qu'à cloche-pied, en sautillant par-dessus les lignes tracées et d'un rond à l'autre jusqu'au centre. Pour remplir toutes les conditions exigées, il ne devra pas s'arrêter en chemin, ni poser par terre, ne fût-ce que pendant une seconde, le pied qu'il lui faut tenir toujours levé. Il paraît que la chose est assez difficile et que la moindre faute, selon la légende, serait la certitude pour les futurs époux des malheurs certains, car l'anxiété est peinte sur tous ces visages de nègres pendant que le fiancé saute. Enfin, un long cri de « Wada ! Wada ! » part de toutes les poitrines en même temps. L'épreuve a réussi. Le jeune homme est arrivé au centre. Il enlève fiévreusement les branches d'arbres qu'il jette loin de lui, et sous l'amas de fleurs, il découvre sa fiancée. Aussitôt, il la saisit violemment comme une proie, la place sous son épaule, et s'enfuit. À cet instant, des exclamations parties de la terrasse où se trouvaient les invités allaient se répercuter dans la forêt. Et comme, après le premier moment de surprise, on s'étonnait que ce mariage se fût accompli sans l'assistance d'un prêtre nègre, le gouverneur en donna l'explication suivante. Le fétichiste n'a pas l'idée d'une divinité. Il vit d'une existence absolument matérielle. Ce mariage bizarre avait fortement impressionné Marianne. Au lieu d'applaudir, comme le faisaient les serviteurs du marquis, elle gardait le silence, absorbée dans une pensée douloureuse. C'est qu'en ce moment où de tous les côtés s'élevaient des cris de joie et des acclamations de plaisir, Marianne songeait à toutes celles qui avaient été ses compagnes de la salpêtrière, dont l'insouciance se manifestait en ce moment. Toutes, aujourd'hui, étaient mariées, et pour elles commençait une existence nouvelle, alors qu'elle-même, qui semblait favorisée entre toutes, n'avait en perspective que la douloureuse existence des martyrs du cœur. Elle voulut s'arracher au spectacle de cette joie générale, et elle s'éloigna, laissant le lieutenant Douvel, lui aussi, vivement impressionné et sous le coup d'une pénible émotion. Où allait-elle? Quittant la terrasse, elle se glissa hors du parc et gagna les appartements de la marquise. La chambre nuptiale d'Yvonne était éclairée par une douce lumière tamisée dans des globes aux teintes d'opale. Marianne s'arrêta un instant devant la porte entrouverte par laquelle elle put apercevoir l'intérieur de cette chambre, qu'elle avait aidé à garnir de ses longs rideaux blancs, légers et diaphanes. Là serait désormais l'asile de l'innocence, de la vertu, l'asile du bonheur mérité. La rougeur lui monta au visage, un long soupir de regret s'exhala de sa poitrine. Deux larmes tombèrent de ses yeux, sillonnant ses joues. Et elle s'enfuit, affolée, vers la petite chambre, au bout de la galerie de bois, et resta longtemps pensive à la croisée de laquelle elle attendait chaque soir, autrefois, l'instant où Charles Douvel ouvrirait la fenêtre de sa chambre.